Vous vous rendez compte, ça fait déjà 10 ans que Écosystème existe.
T'es sérieux là ?
Musique, atelier,
rencontre.
C'est un moment où tout le monde est là.
Écosystème fête ses 10 ans.
10 ans ?
Le bonheur de partager des choses avec le public.
Ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale dans le cadre des 10 ans d'Écosystème, avec au sommaire aujourd'hui plein de choses comme hier. Finalement, on terminera l'émission avec une interview du Flying Orchestra qui est en train de jouer actuellement sur la scène. Il y aura également tout plein d'ambiance, il y aura également une bénévole, Emmanuelle, qui viendra un peu nous parler de pourquoi elle s'est engagée. Nous écouterons également l'interview d'Esteban, j'en dirai un peu plus tout à l'heure, ce musicien qui fait partie du groupe Mama Joe et qui est venu plusieurs fois en résidence ici. Et hier, évidemment, nous étions également sur place et nous avons laissé traîner nos micros. Et c'est Chloé Truchon qui est allée à la rencontre des spectateurs et des spectatrices.
Vous êtes venu pourquoi ce soir ?
On est venu parce qu'on est très triste de ce qui se passe en ce moment. Et on a envie de sourire et de rigoler.
Est-ce que c'était la première fois que vous voyez Matanza ?
Oui, c'est la première fois. Et ça nous a mis bien en ambiance, la danse de tout le monde et leur sourire à eux aussi.
C'est vrai qu'on apprécie bien la salle, elle est bien sympa, avec le bar qui est à coller. Là, on passe toujours de bons moments.
Ça fait un lieu de rencontre, alors qu'il n'y a pas grand-chose dans le coin pour se rencontrer.
C'est la rencontre, on rencontre beaucoup de monde, alors et c'est bien parce que... Par exemple, moi, je participais ici, je fais des repas avec une association d'Amérique latine. Alors, je connais l'écosystème, mais des années, même tous les anciens organisateurs. Alors, bon, il faut que ça continue, quoi.
On adore l'équipe, on adore l'endroit et aussi, on aime bien au niveau de la prog. Ils essaient de faire des trucs différents de ce que tu peux trouver à Besançon ou dans les villes un peu plus loin,
à
Belfort. Et
en fait, à Besançon, il n'y a plus. C'est vraiment des concerts très, très cintrés, très... Si, je sais pas, je retrouve une âme humaine et un rock, du rock, et c'est vraiment génial.
Alors vous habitez à Trézillers et cette année vous avez accueilli un concert des Estivales de Saône dans votre village, il me semble.
C'est quelqu'un de la sauce du village qui a contacté Écosystème et puis c'est un groupe de cumbia et le groupe était fantastique parce qu'ils ont joué pas loin de 3 heures tellement il y avait de l'ambiance et voilà, c'était bien bien apprécié.
Beaucoup d'ambiance, il y avait des gens du village de toutes les générations et ça fait du bien de tous se retrouver comme ça autour de la musique, c'est un bon vecteur.
Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez offrir à Écosystème pour ces 10 ans?
Je ne sais pas ce que je pourrais leur offrir, c'est eux qui nous donnent.
De l'argent, pour qu'ils fassent encore des groupes qui sont encore plus connus, qui viennent. Je ne sais pas, Travis Scott, mais ça c'est dur.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez à Écosystème pour leurs 10 ans?
Eh bien, que ça continue encore de nombreuses années.
D'être encore surpris, d'être encore joyeux, parce que c'est super important aujourd'hui d'être joyeux. Et la musique, comme tous les spectacles vivants, c'est ça, quoi.
Et ben que ça dure le plus longtemps possible, forcément. Et comme je disais aux collègues tout à l'heure, c'est toujours un plaisir de venir jouer dans une salle, pas forcément que pour la musique. Moi, la première fois que je suis venu, c'était pour les ateliers d'écriture. Voilà, je trouve que c'est des démarches qui sont tellement importantes à soutenir aussi. Et que voilà, la culture, c'est pas juste faire des concerts, venir chanter, c'est aussi partager ça avec les gens et de créer du lien social. Et à travers ces ateliers-là, on avait réussi à le faire entre différents collèges. Et tout le monde était venu chanter les chansons des collèges différents, ils ne se connaissaient pas, ils ont chanté en chambre. Et c'était un beau projet en tout cas.
Cool. Eh ben, joyeux anniversaire Écosystème.
Joyeux anniversaire Écosystème et merci pour l'invitation.
Écosystème. Émission spéciale, 10 ans.
Ça se termine avec les voix d'Ali et de Mourad qui étaient hier ici sur scène pour les 10 ans d'Écosystème. Alors ils sont dit des choses, des voix, des ambiances recueillies par Chloé, des voix qui racontent le besoin d'un tel lieu, le besoin de se retrouver dans ce contexte que l'on connaît un peu tous pour la culture. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Et on continue aussi nos rencontres avec l'équipe d'Écosystème. Et c'est Edwige Seguin qui est à mes côtés. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va, merci. Et toi ?
Ça va, ouais. Responsable administratif, donc ici.
C'est ça.
Une réaction déjà à ce qu'on vient d'entendre, ça t'a fait voyager aussi dans les voix peut-être que tu connais ?
J'ai reconnu certaines voix, ça fait voyager et ça fait plaisir. Parce qu'on est là aussi pour apporter cette joie et ce partage. et on voit que les gens viennent chercher des choses différentes, mais qui s'y retrouvent aussi tous. Et c'est super cool.
Donc on est là pour les 10 ans d'écosystème. Toi, tu es arrivé il y a 4 ans et demi, tu as rejoint l'équipe. Voilà, donc tu as, avant d'intégrer l'équipe, tu as vu cet endroit naître.
Non. Non. Non, je ne suis pas du coin.
Ah, tu n'es pas du coin.
Enfin, pas du coin proche en tout cas. Mm-hmm. Donc, quand je suis arrivé à Sées-sur-Saône, j'ai découvert qu'il y avait une salle et j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être recruté pour arriver en période Covid. Donc, pas de concert pendant un petit moment, ce qui était un peu moins fun.
Une entrée un peu spéciale, ouais.
Oui, mais on profite d'autant plus après cette période et depuis qu'on a connu ces restrictions aussi.
Alors, vu que tu habites à Sées-sur-Saône, peut-être tu pourrais nous parler déjà de Sées-sur-Saône rapidement. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à celles et ceux qui ne connaissent pas ?
Alors, Sées-sur-Saône, c'est un petit village de 1400 habitants. On est à 20 minutes de Vesoul. Il y a énormément de choses vu la taille du village. On a quand même des infrastructures, on a le collège, on a un pôle culturel, on a des clubs de sport, on a un magasin, des coiffeurs. Enfin, c'est très très bien fourni. Au vu de la taille, et c'est très agréable avec la Saône qui passe. Les artistes, nous, adorent aller se balader au petit tunnel de Saint-Albin. Enfin, c'est des coins qu'ils aiment bien.
Alors, tu es un témoin privilégié, finalement, en habitant ici, en étant pas loin de la salle. Est-ce que des fois, tu laisses traîner les oreilles un peu dans le village pour un peu savoir ce qui se dit sur peut-être voilà, sur la vie dans cette salle de musique actuelle ?
On laisse toujours traîner les oreilles, je pense que ce soit à Sées-sur-Saône ou ailleurs, dès qu'on entend écosystème, en tant que salarié, on a les oreilles qui traînent. Et on essaye d'en tirer aussi des... Je cherche mon mot, pardon. D'en tirer des
conclusions,
leçons et
ouais.
Des conclusions ouais. Et d'essayer d'améliorer ou de modifier certaines choses aussi, si les propos sont pertinents et que c'est possible.
Mmh. Voilà, et des fois quand il y a des discussions qui portent sur quoi ? Sur le fait peut-être d'avoir tel ou tel artiste ou de...
c'est surtout ça, ouais. La programmation, pourquoi on fait ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est un métier de travailler dans une salle de concert. On nous demande régulièrement quel est notre vrai métier et ce qu'on fait en dehors de ça. Donc, parce qu'ils connaissent, ils n'ont pas forcément la dimension action culturelle, ils n'ont pas forcément toutes ces dynamiques-là. Que l'on peut faire et pourtant on communique dessus, mais on continuera de le faire.
Alors toi, c'est un métier justement que tu as découvert aussi. Est-ce que il me semble que c'était ton premier métier dans la culture, non, quand tu es arrivé là ?
Alors c'est ça, j'étais pas du tout issue du milieu culturel. Enfin, j'y allais en tant que spectatrice.
T'étais une consommatrice déjà
de culture. J'étais une consommatrice de concerts et de culture. Et quand je suis arrivée, moi j'ai une formation qui est très normée, puisque une formation d'assistante de direction, donc très cadrée. Et j'ai trouvé une ambiance qui était très bienveillante, qui est quand même très à l'écoute et qui est rafraîchissante, je trouve.
Alors justement, parle-nous un peu de ton métier. Qu'est-ce que tu fais à Écosystème ? J'ai dit que tu étais responsable administratif, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, je prépare les contrats pour tous les salariés intermittents, qu'ils soient artistes ou techniciens. Je m'occupe aussi des contrats de session avec les boîtes de production. Donc quand certaines grosses têtes d'affiche viennent ou qui sont suivies par une boîte de prod, je fais de la comptabilité, de la paye et tout le suivi RH des salariés intermittents et permanents.
Est-ce que tu te souviens, c'est pas si vieux que ça, quand tu as découvert ce métier, cet environnement, comment tu l'as appréhendé ? Parce que là, tu parles de boîte de prod et tout ça, c'est que des termes qui t'étaient étrangers, j'imagine, quand même.
Totalement.
Comment tu as grandi avec ces découvertes ?
Alors, le Covid, c'était pas très cool, parce qu'on pouvait pas faire de concert, mais d'un autre côté, ça m'a permis d'avoir un petit laps de temps, histoire d'appréhender aussi l'activité, ce qui se passait, ce qui en découlait. Puisque je ne savais pas faire une déclaration SACEM, je ne savais pas ce qu'était une taxe sur la billetterie. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas quand on n'est pas dans le secteur. Et donc, ce petit laps de temps, moi, il m'a été bénéfique malgré les désavantages qu'il en a découlé.
Alors hier, on a entendu un micro-trottoir finalement avec les spectateurs. On a aussi laissé traîner les micros pour vous faire une sorte de no comment à partir d'ambiances agrégées qui vont vous emmener du concert justement d'Ali et Mourad en passant par celui de Johnny Mafia que nous avions accueilli hier. Et on terminera par un extrait d'une visite théâtralisée proposée par le Cri du Moustique.
Monsieur Mourad Musée, la rue qui est à nous, mon côté punk, collectif 13, du bruit pour lui, s'il vous plaît. Eh, vous avez vu, il fait vachement bien la chanson française, Mourad, quand même. Hein. Et moi, je trouve que lui aussi, il aurait pu faire l'ouverture des Jeux Olympiques.
Ouais, mais ça, t'as vu les bordels que c'était quand ils ont dit, il y en a qu'à Mourad, tu vois, quand même. Non, mais quand même, c'est n'importe quoi, quand même. Parce que quand on y pense, Charles Aznavour, il était d'origine arménienne.
Bon, il était un petit peu français aussi, quand même.
Ouais, d'accord, bon, mais Edith Piaf, elle est née en Algérie.
Bah, elle était un petit peu française aussi.
Oui, mais Dalida, elle était égyptienne.
Un petit peu française.
Ah, vas-y, abuse pas. Georges Moustaki.
Ah, bah aussi, un petit peu.
Ouais, ouais, voilà. Et Jacques Brel, c'est un vrai Belge.
Ah, ouais, là, je peux rien dire.
Ouais, voilà. Mesdames et messieurs, qui c'est qui participe à la chanson française depuis 100 ans en France?
C'est nous tous.
Bah, voilà, c'est nous tous. C'est tous les mélanges que vous êtes, mesdames et messieurs. C'est nous aussi la chanson française.
C'est Laurent, on est avec le groupe là.
Ah, j'arrive.
Oui, bon.
Bonjour, bonjour. C'est vous public, c'est ça? Enchantée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathilde, la directrice. En tout cas, merci d'être là, cher public. Sans qui, il faut bien le dire, nous n'existerions pas. Écosystème n'existerait pas.
Oh ben quand même, Mathilde, il n'y a pas que le public. Écosystème existe aussi grâce à tous les partenaires.
Merci Edwige, effectivement, les partenaires, tous les partenaires qui nous aident au quotidien. L'État, la région, le département, le Pays Vesoul Val de Saône et la communauté de communes des Combes. Ça fait 5 comme les doigts de la main. J'ai encore plein d'autres choses à gérer, je vous laisse.
Allez, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'espace des chambres. Alors, 4 chambres, 9 couchages. Lorsque Écosystème accueille des artistes pour travailler, eh bien, ils les logent, ils dorment ici. Et les artistes, lorsqu'ils travaillent ici, on appelle ça une résidence. Qu'est-ce qu'une résidence? Une résidence, c'est lorsque un groupe d'artistes viennent sur un temps défini et travaillent sur plusieurs jours pour créer, inventer, chercher des choses pour un nouveau spectacle ou un nouveau concert.
Il y en aura un d'ailleurs, tout à l'heure, c'est Esteban Blaison qu'on entendra, qui a fait quelques résidences ici. Une petite réaction, voilà, Edwige, à ce son-là, une voix que tu connais d'ailleurs, on a terminé avec la voix de Laurent Giroux, qui a été avec Eve Arbé, accueillie plusieurs fois ici à Écosystème.
Alors c'est ça, ils sont venus avec le Cri du Moustique faire un spectacle en 2018 avant que j'arrive. Donc Écosystème travaille depuis un moment avec eux et on a eu également le plaisir de faire une résidence pendant le Covid en soutien aux artistes où ils ont créé le spectacle Méta avec d'autres artistes dont Jacques Simard, Robin, que je n'en oublie pas, les Turnsteak. Voilà, c'est des personnes qui nous connaissent bien et c'était d'autant plus pertinent que ce soit eux qui fassent ces visites théâtralisées.
Est-ce que parmi les gens que tu côtoies, justement, il y a des gens qui ont mis pour la première fois le pied dans une salle de musique actuelle?
Oui, on a régulièrement des spectateurs qui découvrent des salles de musique actuelles. J'échangeais tout à l'heure avec des personnes là, qui viennent de Morteau. Ils ont vu qu'il y avait un concert ici et ils se sont dit « bon ben go, on y va ». Et ils ont fait 1h30 de route.
Ah ouais.
Et je trouve ça magique que ça fasse déplacer des personnes comme ça et se permettre de se rencontrer aussi. Donc,
Ouais. Alors, on a entendu aussi voilà, plein de sons d'hier. Toi, hier soir, évidemment, tu étais là. Sur quoi peut-être tu t'es arrêté, si tu as eu le temps, hein, bien sûr, dans tout ton travail?
Alors, ça a été difficile de s'arrêter. J'ai pu voir un petit bout de Johnny Mafia, puisque j'ai quand même une grosse attirance pour le style musical. Et j'ai adoré ce qu'ils ont fait. Et sinon, non, c'était beaucoup de billetterie. On s'est aidé entre collègues. C'était assez intense, mais... ça fait du bien de voir cette effervescence et tout le monde réuni pour fêter l'anniversaire d'Écosystème, c'était important.
Ouais, voilà, justement, c'est l'objet de ma dernière question. Bah, je sais que vous êtes en plein dedans, mais qu'est-ce que ça représente pour toi ces 10 années, sachant que tu as participé à presque la moitié, on va dire, de l'existence de la salle ?
Déjà ouais. Presque la moitié, c'est énorme. 10 ans, ça peut paraître... moi, ça me paraît une période tellement longue. Et en même temps, le temps passe tellement vite ici, puisqu'on est toujours dans la date d'après, on se projette toujours, et du coup, on perd la notion du temps, je trouve. Et c'est bien de prendre le temps de le célébrer et de dire merci aux gens aussi, puisque c'est aussi grâce à eux qu'on vit tout ça. Si on n'avait pas le public, on ne serait pas là non plus.
Alors, on a entendu en ouverture de l'émission voilà, des gens qui souhaitaient, qui avaient des souhaits pour Écosystème. Toi, est-ce que tu en aurais un ?
Maintenant qu'on a une très belle extension quand même avec des nouveaux bureaux, on est très bien et je pense que le souhait, ça va être l'ouverture des locaux de répétition qui va aussi donner des nouvelles cordes aux arcs pour les artistes et des nouvelles façons de les accompagner. Et bien sûr, l'argent restera le nerf de la guerre et j'espère qu'on continuera d'être soutenu autant qu'on l'est par les partenaires.
Merci Edwige.
Mais je t'en prie, merci
dans cette
à
émission.
Toi.
Et puis bah nous, j'en ai parlé déjà 3 fois, on va l'écouter maintenant, c'est Esteban Blaison donc, qui découvre la musique à 13 ans en 2010 et qui débute donc par la guitare avant de se tourner vers le chant et d'autres instruments comme la basse, la batterie, le piano. Et en 2018, il se forme à la Music Academy International, qui est tout simplement le centre de formation professionnelle musicale qui est situé à Nancy, qui lui permet à la fois de découvrir le métier de technicien son et de musicien professionnel. Alors il se spécialise, ce que l'on peut dire avant de lancer l'interview, c'est qu'il possède un studio d'enregistrement qui s'appelle Ezia Prod, et il a aussi travaillé avec de grands noms de la musique, hein, voilà, des incontournables Trio, Trust ou Tagada Jones par exemple, et MB14 qui avait eu aussi son petit succès l'année dernière, là, qui avait été pas mal diffusé sur les réseaux. Et les collégiens lui ont tout simplement demandé comment il vit le fait d'être à la fois musicien et technicien.
Moi, j'ai cette chance, je pense, d'avoir une double casquette qui est à la fois donc, la partie musicien et la partie technicien. Donc les deux se complètent. Ce qui fait que je peux avoir des journées où, bah, par exemple, on va faire des journées de répète, on va faire du travail donc, en interne, aussi bien musical qu'administratif. Il y a énormément d'administratif. Ça va être du démarchage de dates, ça va être la préparation de notre communication, ça va être... toutes ces choses-là qui sont extrêmement chronophages. Et puis pour la partie studio, bah c'est un peu pareil. Pour la partie enregistrement, technique du son, c'est un peu le reflet de la partie musicien, mais du coup, beaucoup plus axé sur la technique. Dans la musique, si on veut faire une généralité, on va dire que c'est 2 jours d'administratif pour 1 jour de travail, de musique vraiment concrètement effectuée. Moi, mon travail en studio, ça va être principalement de faire de l'arrangement. Donc l'arrangement, ça va être l'accompagnement artistique pour créer son univers, pour composer des musiques avec lui. Et donc ça commence avant même qu'on se rencontre. On échange, on discute. Moi, je vais lui demander des influences, je vais lui demander ce qu'il aime, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il aime écouter. Donc ensuite, il m'envoie des maquettes. Ça peut être juste un piano-voix, une guitare-voix enregistrée à l'iPhone. Moi, ça me donne une direction. Et puis donc, on se retrouve ensuite en studio pour composer autour de sa chanson. Donc ça va être, ça peut être du rap, du métal, du rock, de la pop, ce qu'on veut, tous les styles. On enregistre. Et puis généralement, la suite à ça, ça va être le mixage, le mastering... la production du CD final et puis la commercialisation et les concerts qui suivent derrière.
Comment avez-vous construit votre studio ?
Avec mes petites mains. On l'a fait, on l'a construit en famille. Donc ça a été long. On a quasiment, on a passé plus d'un an dessus, quasiment un an et deux mois. Donc sur plan, en travaillant avec un acousticien, dont c'est le métier, qui a également travaillé sur plan pour essayer d'obtenir la meilleure acoustique possible, le meilleur outil de travail. Et je crois que le pari est réussi. Chaque lieu a une esthétique qui lui est propre. Là, on a travaillé avec beaucoup de contraintes, notamment le fait que les pièces sont petites. Donc ça apporte aussi beaucoup de problèmes qu'on a cherché à corriger avec l'acousticien. Je ne sais pas s'il y a un son particulier. En tout cas, moi, c'est un son que j'apprécie, dans lequel je suis à l'aise pour travailler. Je suis allé aussi rechercher dans mon matériel beaucoup de vieux matériel, d'appareils ou comme ma table de mixage, la table de mixage principale que j'utilise qui a plus de 40 ans. Donc ça donne peut-être une couleur, quelque chose, plus qu'à la pièce, mais c'est possible. Il y a la partie, à nouveau, la partie technique, tous les appareils que moi je vais utiliser pour sculpter un peu le son. Où là, j'aime aller chiner des trucs un peu inhabituels. Je suis allé chercher un micro jusqu'en Russie, par exemple. Enfin, j'y suis pas allé personnellement, mais je l'ai fait revenir de Russie. C'est un micro plutôt autour des années 80. C'était un micro qui, à la base, était prévu pour faire l'exercice qu'on est en train de faire là, aujourd'hui. Donc c'était un micro qui était très utilisé par le milieu du journalisme, micro LEM. Et en fait, ça a eu une couleur particulière, une couleur qui est teintée d'une époque, teintée d'un style, d'un genre, d'une façon de traiter le son, et qui peut être extrêmement intéressante dans certains cas. Donc ça ne marche pas tout le temps. D'ailleurs, il n'y a aucun équipement qui marche tout le temps. On passe notre temps à essayer des choses, faire des prises, pas pour rien, mais voilà, essayer des placements de micros, différents modèles, différentes marques, pour essayer d'obtenir le résultat le plus fidèle à ce qu'on attend, à ce qu'on recherche.
Une recherche constante chez Esteban, qui est également donc bassiste pour le groupe haute-saônois Mama Joe, que Ecosystem suit régulièrement, soutient dans l'accompagnement. On l'écoute.
La première rencontre avec Mama Joe, en fait, elle date de bien avant Mama Joe. C'était avec Julien, donc le guitariste, qui était mon prof de guitare. Depuis que j'avais 15 ans, donc assez rapidement. Et puis on se connaissait un petit peu de loin avec les autres membres, puisque donc j'avais eu un premier groupe avec qui on avait déjà partagé de la scène. On avait fait ce qu'on appelle des coplateaux. Et puis les années ont passé, etc. Le hasard a fait qu'ils ont cherché un bassiste et que j'ai repris contact avec eux en me disant tiens, pourquoi pas essayer, le groupe me plaisait, c'est un style musical qui me parle, et puis je savais que c'était une bonne équipe, parce que l'humain, c'est très important dans ce genre de projet. Donc on s'est rencontrés, enfin on a convenu d'un rendez-vous, on a discuté, on a échangé, on a fait des essais, quelques premières répètes, etc. Et puis le courant est passé, et du coup j'ai rejoint officiellement le groupe il y a à peu près un an et demi. C'est un groupe qui a une dizaine d'années de carrière. Ils ont déjà fait des très belles scènes. Et puis moi, donc, j'arrive dans un second temps pour redonner un petit coup de jeune, parce que les papilles commencent à avoir de l'âge et ça leur fait pas de mal. Ben donc avec Mama Joe, on a fait une dizaine de concerts cette année pour lancer cette première saison ensemble. Parce qu'avant ça, il y a eu plus d'un an de travail en interne pour préparer un nouvel album, pour remettre en place le live, en fait, que moi j'ai le temps de me réapproprier les anciens morceaux. Et puis là, on prépare du coup la saison 2025 dès maintenant, pour essayer de s'exporter un petit peu et puis d'accéder à quelques belles scènes.
Quels sont les bons côtés et les mauvais côtés de votre métier ?
Alors, le bon côté, c'est l'humain. Et le mauvais côté, c'est l'humain. Il y a plusieurs bons côtés. Déjà, c'est un métier passion. Donc ça, c'est une vraie chance. Je me le dis quand même, pas tous les jours, mais presque. Donc j'en profite tant que ça dure. C'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde et c'est énorme. Je me lève pour faire de la musique. Je me lève pour faire des albums, pour faire des enregistrements, pour faire plein de choses que j'adore. Et donc ça, ça n'a pas de prix. Et puis surtout, on rencontre plein de monde, en fait. Plein de monde, de plein d'horizons différents, avec plein de choses à nous apporter. En fait, le vrai point positif de ça, c'est les échanges, tout ce qu'on peut apprendre de l'autre et des rencontres qu'on fait sur chaque projet. L'inconvénient de ça, c'est que parfois, il faut aussi savoir gérer les humeurs des différents artistes. Un artiste, il est là pour donner quelque chose, c'est une part de lui-même, et donc il y a des bonnes choses et des choses moins bonnes. Parfois, c'est rare et heureusement, mais il peut y avoir des crises de colère, le ton qui monte. C'est rare, heureusement, mais ça arrive et il faut savoir l'anticiper. Et puis, l'autre côté négatif que je verrais aussi, c'est l'investissement personnel que ça demande. Ça reste un domaine qui est difficile, très concurrentiel. Donc, il faut se donner tout le temps à 100%, être toujours présent. Ça demande beaucoup de temps, y compris dans le perso. Et parfois, ça peut être difficile à gérer, surtout avec l'entourage.
Esteban Blaison, donc, au micro des collégiennes et des collégiens de C-sur-Saône. C'est l'heure maintenant de retrouver Mathis Akengin, qui est passé hier, qui a été, on peut le dire, un peu le coup de cœur des spectateurs, spectatrices et aussi de l'équipe d'Écosystème, avec le titre « Passage des fleurs ».
Émission spéciale, 10 ans. Thank you.
Écosystème, je t'aime.
Écosystème fête ses 10 ans.
Eh ben, joyeux anniversaire, Écosystème!
Moi, j'ai fait partie d'Écosystème pendant une douzaine d'années. Là, j'ai eu une petite interruption pendant un an parce que j'ai eu des problèmes personnels liés à mon travail. Donc là, je vais revenir donc, au CA parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, qui me plaît, qui m'apporte énormément. Parce que quand on est bénévole, on a l'impression qu'on doit donner. Mais en fait, on reçoit tellement que voilà.
Toi, tu as suivi l'ouverture d'Écosystème. Du coup, tu étais déjà membre de la...
J'étais déjà au conseil d'administration, j'étais déjà au bureau aussi, bénévole. J'ai même été trésorier. Quand l'association Au coin de l'oreille a arrêté avec le Moulin de Pensée parce qu'on n'a pas pu acheter le local, on s'est retrouvés sans salle, avec faire que des hors les murs et avec pas mal d'anxiété sur le projet. On a Carmen Fiquet qui nous a soutenus, qui nous a entre guillemets sauvé la mise, qui a été vraiment très très porteuse pour nous. Et donc on est venu ici, c'était une ancienne tôlerie, je pense que vous savez tout ça. J'ai des souvenirs inouïs parce que quand il y a eu les travaux, donc déjà j'étais super fier qu'on achète une salle, qu'on s'installe ici. C'était le territoire où on a démarré, en plus en pleine zone rurale, c'est tout ce qui me plaisait pour la diffusion comme ça, donc et puis l'égalité entre guillemets culturelle sur le territoire. Et j'ai des souvenirs incroyables. On a travaillé avec l'association de Beaumotte, avec des tas de jeunes qui étaient réfugiés ou qui étaient non. On a travaillé les week-ends, on faisait de la peinture, on faisait des trucs. Enfin, moi, ça m'a rendu moins con. Ça m'a fait découvrir des tas de gens, des tas de choses. Ça m'a fait partager des choses inouïes. C'est atypique, quoi. Il y a peu de petites SMAC comme ça qui sont propriétaires de leur salle en France. Je ne sais pas combien on est, mais ça se compte sur les doigts d'une main, je pense, ou de deux. Donc, c'est quelque chose qui marque. On peut être tatoué de différentes façons. Moi, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, puis qui a toujours une place vraiment très particulière.
Salva, donc au micro de Chloé Truchon, qui est membre du CA. Alors, vient de nous rejoindre Emmanuel Mougin. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Oui.
Une réaction déjà à ce qu'on vient d'entendre. Tu connais Salva, j'imagine ?
Oui, je connais Salva. Ben, on n'a pas tout à fait le même parcours, mais quand même des semblants. On n'a pas été dans l'ICA forcément en même temps ou au niveau des responsabilités. Moi, j'ai fait plutôt des responsabilités au CA et au bureau après lui, parce qu'il a un job qui le prenait beaucoup. Actuellement, j'y suis plus parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais je suis restée bénévole.
Alors justement, depuis quand tu t'es engagée en tant que bénévole ?
Alors, ça fait très longtemps, c'était depuis le Moulin de Pensée.
D'accord.
Ouais.
Et voilà, j'imagine que c'était participer quoi, à une aventure musicale. Qu'est-ce que tu venais chercher ?
J'ai toujours été intéressée par la musique, pas en tant que pratiquante, mais en tant que spectatrice. Et voilà. Je vais beaucoup au festival, dans d'autres salles pour voir des concerts. Et j'étais tellement contente qu'il y ait quelque chose dans le coin qui existe que je me suis investie pour que ça perdure. Et je suis contente que ça s'est résisté à tous les contraintes qu'on a eues parce qu'il y a eu le moulin. Donc, comme a dit Salva, il a fallu quitter le moulin de Pensée. On est resté 2-3 ans sans rien. Donc, on allait dans des salles pas adaptées. Et on a rencontré ce lieu qu'on a monté de toutes pièces. Et ça, c'était une jolie aventure, quoi. On a une super bonne salle au niveau du son. Et puis, petit à petit, les améliorations sont arrivées. Les bureaux, l'accueil des artistes, etc.
Alors, quand tu dis « on a rencontré ce lieu », tu étais là à cette période-là ?
Oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Rappelle-nous un peu comment ça s'est passé, justement, peut-être la recherche, comment la première visite, quand vous êtes arrivé.
Alors, quand le moulin, les propriétaires du moulin de Pensée ont décidé de vendre les locaux, les tarifs étaient trop élevés pour nous parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. Et du coup, on s'est dit on ne peut pas. Donc, on a cherché sur Vesoul. Ça a été un petit peu compliqué, ça a été trop compliqué. On ne nous donnait pas forcément accès à des endroits à 100% pour gérer nous-mêmes. Il y a eu des salles pas du tout adaptées. Et finalement, on a réussi à trouver ici cette ancienne tôlerie qui était vide. Donc, comme un entrepôt, il y avait le toit, les murs, le sol. Et du coup, on a pu construire une salle de toutes pièces avec des bons matériaux, grâce à Thomas aussi, qui est quand même un technicien du son, qui est quand même très, très à l'écoute, qui sait ce qu'il fallait pour que ça soit du bon matériel et puis du bon son. Et du coup, ben, on a tout créé de toutes pièces.
Voilà. Bah, alors voilà, tu fais partie d'équipe depuis le Moulin de Poncé, comme tu viens de le dire. Est-ce que tu pourrais, est-ce qu'il y aurait des choses qui te viennent à l'esprit sur voilà, un souvenir, en tout cas une anecdote, quelque chose de marquant pour toi ? Alors, il peut y en avoir plusieurs, mais des moments un peu peut-être significatifs.
Des moments, bah, il y en a eu tellement que j'ai réfléchi hein, depuis que vous m'avez demandé l'autre jour, mais j'arrive pas à avoir des trucs un peu dingo ou un peu, mais c'était quand même, il y a eu plein de choses parce que quand on est bénévole ici, bah, ou avant, on fait partie de tout. On peut faire de la peinture, on peut faire de la cuisine, on ramène des musiciens, on est aussi sur les concerts. Et du coup, il y a plein de souvenirs qui me viennent comme ça, mais des anecdotes particulières, non.
Alors, bah, un souvenir.
Pas marquante.
Un souvenir, en tout cas. Il y a quelque chose ?
Alors, si ça date de Poncé, c'est embêtant ou pas ?
Non.
Alors, je vais vous faire un groupe de c'était au début que j'étais bénévole, donc à Poncé. On ramène, il fallait ramener un groupe de, alors c'était, ah là là, c'était un groupe de reggae, donc c'était tous des musiciens, il y en avait au moins 6-7 qu'on a mis dans une camionnette, donc tous des mecs avec des rastas et tout, et on se disait, alors j'étais avec une collègue, on était deux blondes, et on se dit, quand on va arriver à Vesoul, on va détonner là, il faut pas qu'on se fasse arrêter. Il y avait la musique à fond dans le camion et tout. Donc ça, c'est des petits événements avec les musiciens, quoi, des à côté. Après,
ça montre aussi que quand on est bénévole, ben on a plusieurs fonctions, voilà. Ouais. Tu peux nous dire justement les fonctions que tu as exercées en tant que bénévole ?
Eh bien, je fais pas trop la cuisine, moi, parce que j'ai pas trop envie. Mais sinon, je vends des jetons au bar. Tous les locaux, les derniers locaux là, qu'on a fait, quand on est venu s'installer, on a nettoyé tous les locaux, nettoyé les sols et tout. Et là, on a agrandi. Donc, on est venu faire 2-3 jours de peinture. On amène du matériel. On accueille. On est présent sur les concerts. Et il y a aussi les estivales en été. Parce qu'il n'y a pas que la salle de concert ici.
Oui, il y a tout ce qui est
itinérant. Il y a tout ce qui est autour.
Ouais, tout à fait.
Ouais, ouais. Donc,
il y a de quoi s'amuser quand on est bénévole.
Oui, et c'est varié. Voilà. Et puis, c'est sympa. Les gens, en général, qui sont bénévoles, sont toujours de bonne humeur. C'est cool. Il n'y a pas de prise de tête. Voilà.
Alors, il y a aussi une autre chose que je t'avais demandé. Donc, avec Chloé, nous sommes intervenus au collège de Cessures-Saône. Nous avons travaillé avec les collégiens et nous leur avons demandé de travailler sur l'idée d'une lettre musicale, une sorte de dédicace à quelqu'un. Une musique, en tout cas, qui leur rappelle un moment qu'ils ont pu partager avec un ami, des amis. Et même exercice, finalement, pour toi. Tu as réfléchi à une musique, c'est Scapé. Dis-nous pourquoi tu as choisi cette musique. Et puis, raconte-nous, tout simplement, sans intervention de ma part. Peut-être qu'on peut diffuser la musique de Scapé. Et on va te laisser au micro nous raconter un peu pourquoi tu choisis cette musique.
Alors j'ai choisi cette musique, j'aurais pu d'autres, mais j'ai pris celle-ci parce que c'était une musique qui nous rassemblait avec mes trois enfants. Quand on était en voiture ou quand on se baladait, on était tous à fond là-dessus. C'est de l'espagnol, on est sensible à la langue espagnole. Et j'ai beaucoup emmené mes enfants sur les concerts ou sur les festivals. Et d'ailleurs, ils continuent sans moi maintenant. Et c'est quelque chose d'affectif, quoi. Voilà.
Merci à Emmanuel Mougin d'être venu dans l'émission.
Racial, multicultural, multiracial, multicultural. No fronteras, no banderas, no a la autoridad, no riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje con vivir en colectividad.
Gritaré que ardan las banderas por
capital. Ay, 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 la justicia, ¿dónde está? Racial, multicultural, multirracial, multicultural. No fronteras, no banderas, no a la autoridad, no riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad.
D'une lettre musicale à une autre, et maintenant on va écouter celle d'une collégienne qui nous parle aussi de quelques souvenirs et surtout d'une musique qui l'a marquée, c'est Dans ma cabane.
Les 10 ans d'Écosystème.
C'était un mercredi 24 juillet 2024, lors de la soirée de Léa. Il faisait très froid et moi et Elisa, on avait la couette de Mathieu et on était posés sur un banc à Amons. C'était dans un champ avec du foin et Romain et Aaron lançaient du foin sur Lisa. J'avais la voix cassée et d'un coup avec Lisa, on a chanté Dans ma cabane.
Mais dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix sous les étoiles de mon désert. Dans mon petit coin, j'aime le grand air.
Et j'avais les lunettes à Marvin. Après, on est allé marcher avec Marvin dans la forêt et d'un coup, on entend un bruit dans le bois. Il faisait nuit noire. On a d'abord pensé que c'était un loup, sauf que j'ai la phobie des loups. Donc j'ai fui.
Pour t'arracher du quotidien, de ta vie, de tous les jours. De...
On y est re-allé et c'était des chèvres PTDR. On avait l'air bête. On avait tellement couru, par peur de se faire attaquer, je courais plus vite qu'Mbappé. Après être revenu, Mathieu lançait des glaçons sur Luca alors qu'il faisait moins de degrés dehors. Tellement qu'il faisait froid, j'étais en hypothermie et je n'étais plus dans mon état normal. Marvin dormait comme un garde du corps, du coup on a tout chanté dans ma cabane.
Tu veux rester? Bah moi je me casse de là, mais oui c'est hors des sentiers battus, loin de la ville et loin des rues, loin de ces coins que l'homme pollue, un coin tranquille, un peu perdu, ouais, 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 hors des sentiers battus, on se sent bien, on marche pieds nus, ouais. Sentier battu, on se sent libre, on se met nu. Wow, wow, tu passes ta vie à 100 à l'heure sur l'autoroute du malheur, à regarder les kilomètres défiler sur le compteur sans penser à t'arrêter. Toutes les 2 heures sans penser à méditer sur les causes du bonheur. Mais oui, c'est il est plus que temps, man, de faire une pause. La ville, la malbouffe, la pollution, c'est bon, j'ai ma dose. Oui, il est plus que temps, man, de faire une pause. La ville, la malbouffe, la pollution et tout le stress. Il faut faire bonne figure et faire tourner le business. Oh. Dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix sous les étoiles de mon désert. Dans mon petit coin, j'aime le grand air. J'ai mon petit joint, j'ai ma petite bière. J'aime pas demain, j'aime pas hier. Je regarde l'océan comme si c'était un être cher. Dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix. Ouais, 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 ouais. Mais dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix. Ouais, 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 ouais. Mais oui, c'est hors des sentiers battus, loin de la ville et loin des rues. Ces coins que l'homme pollue, un coin tranquille, un peu perdu, oh, 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 hors des sentiers battus. On se sent bien, on marche pieds nus, ouais. Hors des sentiers battus, on se sent libre, on se met nu. Oh, oh, oh.
C'était donc Dans ma cabane de Hendrick Airways à l'instant pour cette émission spéciale 10 ans d'Écosystème.
Les 10 ans d'Écosystème.
Live, live, live.
Faut que ça continue.
Hier, à notre micro, Olivier Noir nous avait fait visiter Écosystème, la salle, la partie bar. Et maintenant, on continue avec la direction des loges artistes et les bureaux.
Allez, on a avancé. Ok, rapidement, ici, c'est l'accueil artiste. Alors avant, c'était nos bureaux qui étaient mélangés à l'accueil artiste. Et on a fait des travaux. Avant, il n'y avait pas également l'extension qui est dehors où on a nos bureaux. On va aller juste après. Et donc ici, on a décidé de dédier cet espace uniquement à l'accueil artiste, que ce soit pour les soirs de concert ou les résidences. C'est-à-dire qu'un groupe qui vient 4 jours pour travailler sur scène. Ici, on a 3 chambres avec plusieurs lits par chambre. On a une chambre d'appoint ici, des canapés pour se poser tout simplement. Et les tables que vous voyez là, c'est l'espace où on mange avant les concerts le soir avec les bénévoles et l'équipe. On a une grande cuisine équipée, donc on est en fait, quand on est ici, on peut être autonome. C'est une vraie petite maison finalement. Ouais.
Est-ce qu'on peut prendre un petit papier ?
Les programmes, ouais, vous pourrez repartir avec un programme. Je vous en donnerai tout à l'heure. Je vous en distribuerai. Et donc voilà l'extension où on a mis on a aujourd'hui nos bureaux. Donc voilà, pour travailler, c'est beaucoup plus souple. Et ça permet aussi d'avoir un abri en bas devant la salle. Et c'est pas mal. Donc voilà où on travaille, où on prépare les concerts, la programmation. Et voilà, du coup, simplement, on a fait un bâtiment où il y a 4 bureaux et une grande salle de réunion. Pour info, ce week-end, le plateau, il sera dans la salle-là, il sera dédié au plateau radio, pour ceux qui veulent venir. Eh bien, merci à vous. Allez, retour et bon atelier.
Merci.
Dans les beaux quartiers, à l'arrière-boutique, ne marier mal rasé. Les clients bourrés de flics et les femmes à miner se donnent la réplique dans un club très privé. Mais bon temps scaillé, ma chaîne en envie. J'arrive au rat-pack comme un cadeau. Le maître des lieux. Si vous êtes du genre à flamber, elles sont là pour vous allumer. Bandit, manche au crabe, c'est blackjack. Si vous êtes du genre dépensier, tout ce qu'il faut pour vous amuser. Bande de Polonais m'ont dit c'est de blague si tu veux miser. J'ai pas flairé l'arnaque et ils m'ont dépouillé. Quand une beauté cosaque m'a dit tu veux monter, elle m'a pris tout ce qui me restait encore. Mes bottons scaillés, ma chaîne en or. Bourré de fruits francs raminés. Ville commune, bienvenue au Rat-Pack. Si vous êtes du genre dépensier, tout ce qu'il faut pour vous amuser.
Les 10 ans d'Écosystème.
La salle de concert qui vous met de bonne humeur.
Écosystème fête ses 10 ans.
Et c'est vraiment génial.
Quoi de mieux que d'accueillir le Flying Orchestra sur une musique du Flying Orchestra. On est avec Boran. Exactement. Ça va bien ?
Ça va très bien, ouais.
Ouais, alors ce concert, la sortie de concert
Bah, très, très, très chaud, là. On sort de scène, là, il y a à peine 5 minutes, et c'est un véritable four sur scène.
Ouais.
On avait une bonne chaleur du public, donc là, on suit tout ce qu'on peut, mais on est ravis d'avoir été là pour fêter ces 10 ans de l'écosystème avec vous.
Voilà, sachant que vous aviez déjà joué ici l'année dernière.
Exactement. Alors, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais ouais, il y a quelques mois, on va dire, avec la Caravan Pass, on avait partagé le plateau, il me semble.
Alors, c'est une belle découverte, Flying Orchestra. On découvre plein de choses, y compris votre pays d'origine.
Exactement, la Boukravie.
La Boukravie. Alors, peut-être une petite carte postale sonore pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas la Boukravie. À quoi ressemble la Boukravie ?
Bah, la Boukravie, c'est avant tout dans la tête. C'est vraiment un pays fictif où on peut vraiment inventer tout ce qu'on veut. Et c'est ça qui est fort et ça n'a pas de limite. Et nous, ça nous plaît bien de pouvoir y mettre vraiment tout ce qu'on veut dans ce pays-là. Et il a beaucoup changé. Ça fait maintenant 15 ans que le groupe existe. Donc forcément, la Boukravie, pendant le premier mandat, n'était pas la même que maintenant, actuellement, au bout de 15 ans. Donc c'est ça qui est cool. On peut faire ce qu'on veut.
Ouais. Qu'est-ce qui a changé quand même, justement ?
Bah, qu'est-ce qui a changé ? Il y avait pas mal de choses qui ont changé à l'intérieur du groupe. Tu vois, c'est le Flying Orchestra, c'est un peu la vitrine de ce pays. Et ça s'est un petit peu plus modernisé, on va dire. Quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'au début, le groupe, c'était vraiment une fanfare. On jouait vraiment en acoustique, avec que pratiquement les instruments avant. Et au fur et à mesure du temps, on a découvert l'électricité en Boukravie. Et du coup, on s'est mis à faire d'autres instruments, à troquer les accordéons contre des keytars, à troquer des tubas contre des guitares basses, intégrer des guitares électriques et ce genre de choses. Et donc forcément, le son s'est vu un peu modifié et voilà, ça tend un peu plus vers maintenant une sorte de groupe de rock à l'influence toujours des Balkans, mais voilà, un peu plus actuel, on va dire.
Ouais. Alors qu'est-ce qui fait qu'on migre à un moment donné, on a la Boukravie natale et on décide quand même d'aller voir ailleurs? Quelles sont les raisons de cette migration ?
Ah ben, c'est l'ouverture sur les autres musiques, les autres continents et les influences qu'on a pu avoir, des musiques qu'on écoute nous. Et voilà, quoi, on s'est dit, autant faire évoluer un petit peu notre style et pas rester cantonné à ce qu'on sait faire et à ce qu'on a toujours fait au démarrage. Et voilà, s'ouvrir à d'autres esthétiques, à d'autres instruments et essayer de faire un métissage de toutes ces influences-là pour faire le son propre au Flying Orchestra, en fait, maintenant.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est naître en Boukravie et renaître ailleurs, du coup. Il y a évidemment des influences, forcément. Alors, je ne l'ai pas cité, mais vous avez fait plein de... Vous avez partagé la scène avec des groupes très connus. Alors, je ne suis pas certain de ma source, d'un coup.
Ah, vas-y, on va voir.
Je sais que vous avez fait la Caravan Pass, il n'y a pas de problème. Ouais. Vous avez partagé avec eux. Mais, Emir Kusturica, vous l'avez fait ?
Exactement, ouais. On l'a fait à Metz, à la fête de la Mirabelle.
Et est-ce que ça participe justement à l'écriture qui est en cours dans vos compositions ?
Bah ça, c'était des belles rencontres et c'est, on va dire, les influences du début du groupe, quoi, avec des grands noms de la musique des Balkans comme Emir Kusturica que vous avez cité, ou alors Goran Bregovic aussi, où on a pu faire sa première partie 2-3 fois. Et donc ouais, ça c'est des influences, on va dire, plutôt du démarrage du projet où c'était un peu les patrons de cette musique-là, quand cette musique-là a commencé à arriver ici. En Europe de l'Ouest, on va dire. Donc, on a beaucoup écouté de ça. On a beaucoup vu les films aussi de Kusturica et tout cet imaginaire-là. Et ce côté un peu déjanté et humoristique. Donc, c'est aussi une touche qu'on voulait apporter. Et voilà, on a toujours, en faisant sérieusement de la musique, on a toujours voulu garder ce côté un peu déconne et humour.
Ouais, tout à fait. Ça se voit dans le code vestimentaire.
Exactement.
Un petit peu périlleux parfois.
Exact.
Voilà, alors comment, on voit que vous êtes quand même un groupe de scène, enfin, on l'a dit, Chloé vous l'a dit hors antenne, mais on a été conquis vraiment par la performance. Comment vous travaillez, vous abordez le travail et la presta d'un concert, enfin, j'aimerais bien savoir, parce qu'on voit quand même évidemment que tout est bien millimétré, il y a même de la choré un peu, chorégraphiée.
Exactement.
Des heures de travail.
C'est des grosses sessions de travail où là maintenant on est un petit peu tous éclatés géographiquement, donc c'est pas forcément un groupe où on va se voir toutes les semaines pour répéter dans un garage ou une cave, mais on fonctionne beaucoup à faire des grosses périodes de résidence, quoi. On va dans des salles qui nous accueillent et pendant une semaine on est dans cette salle en résidence, on a le plateau qui est disponible et on répète, on crée les morceaux, on les arrange, on modifie les trucs, on cherche, quoi, on travaille. Et quand ça prend forme, on fait vraiment ça. Et pour aboutir à ce qu'on a pu voir, par exemple, cet après-midi, c'est pas qu'une résidence, c'est forcément sur une année, voire une et demie, 5 ou 6 résidences d'une semaine éclatées comme ça sur cette période. Et à chaque fois avec les objectifs différents, quoi. D'abord la création, écrire les musiques, les jouer, les arranger. Après, les faire avec notre équipe technique, avec notre technicien au son, réfléchir un petit peu à tout ça. Après, réfléchir à la mise en scène, à faire un petit peu des choses un peu fun, des petites chorés, des déplacements, des interactions un peu avec le public. Et voilà, à chaque fois, on fait monter le travail comme ça sur ces résidences-là pour aboutir à ce que vous avez pu voir cet après-midi.
Le Flying Orchestra joue principalement de mai à l'été, on va dire, quoi, quand il fait beau.
Exactement, ouais, la grosse période des festivals, surtout quoi, de mai à septembre, c'est notre grosse période, on va dire.
Et on est dans les 10 ans d'écosystème, alors qui dit 10 ans, forcément dit souvenir, anecdote peut-être. Alors dans votre groupe qui joue déjà depuis pas mal de temps maintenant, est-ce que tu pourrais nous extraire peut-être 2-3 moments qui ont été pour toi en tout cas significatifs, marquants?
Ah il y en a eu pas mal en 15 ans, vous imaginez bien qu'il y a pas mal de souvenirs, mais ouais, je vais redire un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, des rencontres et des premières parties et des scènes qui nous ont marqués en partageant le plateau avec des groupes comme Goran Bregovic, Emir Kusturica et No Smoking Orchestra, avec des groupes comme Dubioza Collectif aussi. Je voyais qu'avant qu'on monte sur le plateau, là, en régie, ils mettaient le son du Dubioza. Donc c'est des groupes aussi qu'on a pu rencontrer et avec qui on a pu partager le plateau. Donc ça reste à chaque fois des moments importants pour nous, vu que c'est un peu ces musiques-là qu'on écoutait en créant le projet, tout simplement. Donc ça fait toujours plaisir de partager le plateau avec les grands de cette musique-là. Donc ça reste des beaux souvenirs, quoi, et des dates. C'est toujours bien. Nous, le groupe, on va dire, on vient de Boucravie, mais la terre d'accueil, ça a été Metz, dans le Grand Est, en Moselle. Et donc on a pu faire beaucoup d'événements sur Metz, devant beaucoup de monde, et du coup ça reste toujours des moments marquants, quoi, de jouer à la maison.
Ouais, est-ce qu'il vous arrive encore aujourd'hui de quitter la maison pour justement aller vous immerger dans d'autres contrées, pour peut-être renouer avec certaines sonorités on sait que vous faites de la musique des Balkans, donc
carrément, ouais.
Toi tu fais
pas forcément tout le groupe, c'est-à-dire qu'on chacun apporte un petit peu, on n'est pas forcément tous des férus de musique des Balkans dans le Flying Orchestra, et c'est ça qui est à la fois bien, ça apporte d'autres influences et d'autres façons de jouer, mais en tout cas en ce qui me concerne et ce qui concerne quelques autres personnes dans le groupe, on aime toujours se former sur les musiques des Balkans et faire des... On a pu faire des stages pour aller jouer, par exemple, un stage en Roumanie ou un stage en Macédoine avec des musiciens du Cochani Orchestra ou ce genre de groupe. On est vraiment dans la musique trad des Balkans, quoi. C'est pas les mêmes sonorités que les groupes que j'ai pu citer avant, où ça mélange pas mal avec des musiques actuelles. Mais voilà, ça nous tient aussi à cœur de connaître cette musique-là au sens traditionnel, quoi, de savoir la jouer pour ensuite essayer de sortir un peu de ce sentier-là et de la faire à notre sauce et de la métisser avec d'autres influences, quoi.
Alors quand la saison l'été se termine, c'est bientôt l'heure d'hiberner, est-ce que pour vous c'est synonyme de nouvelles aspirations? Est-ce que y a des envies là qui sont peut-être déjà là?
Ouais, carrément, comme tu dis, l'été c'est beaucoup les tournées, tout ça, et l'hiver ça peut paraître une hibernation en termes de concerts. C'est sûr qu'on joue moins, il y a quand même quelques dates, mais on en profite toujours pour soit faire les fameuses résidences dont je parlais tout à l'heure, pour monter les shows et travailler tout ça. Donc là maintenant, nous, ce concert-là, il est monté, donc on va encore le tourner l'été prochain, et donc là cet hiver on va tout simplement réaliser un album, quoi, le prochain album du Flying Orchestra, où on va enregistrer sur tout le mois de novembre en studio à Nancy, au studio B, et ensuite le mixer à Metz sur le mois de décembre pour essayer de faire une sortie un petit peu en décalé, sortir 2-3 singles dès le début d'année 2025 pour faire une sortie numérique et physique de l'album au printemps 2025, juste avant justement la saison des tournées qui va recommencer, quoi.
Très bien.
Donc il y a du pain sur la planche, comme on dit, cet hiver avec cet album, et forcément quelques clips ou du visuel et des actus qui vont arriver pour préparer justement ce printemps et le retour des dates, quoi.
Ok, très bien. En guise de dernière question, je voulais simplement peut-être parler d'ici, d'écosystème, du lieu, c'est sur Saône. Voilà, peut-être que tu as un message à donner à l'équipe, c'est leur 10 ans. Qu'est-ce que tu voudrais leur souhaiter, par exemple ?
Une longue vie. 10 ans, c'est énorme, c'est déjà cool. Il y a pas mal de nous, dans le Grand Est, là, il y a pas mal de SMAC qui ont fêté leurs 5 ans ou leurs 10 ans aussi cette année. Et ça fait plaisir de voir qu'à un moment donné, donc il y a une dizaine d'années, beaucoup de lieux se sont créés et ont réussi à faire des choses bien, à avoir cette labellisation SMAC et à exister toujours au bout de 10 ans. Donc c'est cool, respect et longue vie à l'écosystème. Et j'espère qu'on reviendra sur scène, prendre un petit peu de chaleur dans cette fournaise quand le public est chaud.
Merci Boran.
Merci à vous.
Bonne soirée, rentrez bien.
C'est gentil.
Les 10 ans d'écosystème.
Écosystème, je t'aime.
Mais oui !
On vous propose maintenant de poursuivre et d'ailleurs de terminer cette émission avec un témoignage d'une bénévole recueillie donc hier soir par Chloé.
Alors la commission des 10 ans.
La commission des 10 ans.
Vous étiez nombreux ?
De travail, oui, on était quand même 5-6, plus les salariés qui accompagnaient un peu le projet, c'était vachement sympa. On a eu les rêves les plus fous, on va dire. Puis après on a dit on verra ce qui se réalise. J'avais envie de dire que voilà, c'était chouette que l'écosystème ait tenu 10 ans déjà. Ça voulait dire que ça pouvait continuer encore. Et puis de prendre le temps de se rappeler comment c'était au début et de ce qui s'est passé avant. Des trucs qu'on a fait avec des bouts de ficelle et machin, des économies de bouts de chandelle. Hein ? des accueils d'artistes un peu au pied levé, des bénévoles qui venaient nous filer des coups de main et tout ça. Mais voilà, ouais, c'est chouette de voir que ça s'est un peu posé quelque part, qu'il y a un outil qui est là, qu'il y a une équipe qui tient la route. Puis toujours avec un projet associatif, tu vois, qui malgré tout continue avec des bénévoles, avec un CA qui a sa place, qui peut prendre des décisions avec les salariés. Je trouve que c'est chouette quand même. Même s'il y a des moments difficiles, des tensions et tout ça, à un moment donné, paf, le projet il est là, il faut que ça continue, quoi. Donc c'est bien.
Un outil toujours là, continuons d'avoir les rêves les plus fous. On vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ces deux émissions spéciales pour les 10 ans d'Écosystème. C'était à la technique Chloé Truchon, au micro à l'animation Aurélien Bertini. On vous souhaite voilà, de poursuivre comme vous avez déjà traversé ces 10 premières années. À bientôt à toutes et à tous. Et merci bien sûr, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais à toute l'équipe d'Écosystème, salariés, les bénévoles, les membres du CA et toutes celles et ceux que nous avons rencontrés.
Vous
rendez compte, ça fait déjà 10 ans que Écosystème existe.
T'es sérieux là?
Musique, atelier, rencontre.
C'est un moment où tout le monde est là.
Écosystème fête ses 10 ans.
Le bonheur de partager des choses avec le public.